Action par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, on est à l'heure. Patrice Gélinet, c'est 2000 ans d'histoire, c'est à vous.
Merci Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 1er janvier 1994, il y a 11 ans au Mexique, la révolution zapatiste. Le zapatisme n'est pas une nouvelle idéologie, il a simplement une aspiration, construire un monde meilleur. En résumé, le zapatisme n'appartient à personne et pour cela, il est à tout le monde. Sous commandant Marcos, 5 mai 1996. Ans d'histoire. La date n'avait pas été choisie par hasard. Le 1er janvier 1994, jour de la signature d'un accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, plusieurs milliers d'Indiens en armes se soulevaient dans une des régions les plus pauvres du monde, le Chiapas. Comme cela se passait dans un pays, le Mexique, et sur un continent où la révolution est une industrie nationale, on n'a pas tout de suite pris au sérieux cette insurrection qui sentait bon le pistolero moustachu portant un large sombrero et une cartouchière. Son chef, pourtant, le mystérieux sous-commandant Marcos, ne portait pas un sombrero mais un passe-montagne, et il se réclamait d'une révolution qui avait enflammé le Mexique 84 ans plus tôt, la révolution zapatiste. Et très vite, on s'est rendu compte que le soulèvement du Chiapas n'était pas une révolution d'opérette, qu'elle allait même prendre très vite une dimension internationale. France Inter, Jean-Luc Hesse, le 3 janvier 1994.
Zapata est mort il y a plus de 70 ans, mais la révolte gronde. Dans le sud du Mexique, les insurgés ne supportent plus la misère et se sont lancés dans l'insurrection armée. Nous recevrons Marielle Pépin-Lehalleur, chercheur au CNRS, spécialiste de l'Amérique latine.
France Inter. Zapata n'est pas mort. Au Mexique, quelques centaines de paysans indiens qui se revendiquent de l'héritage du célèbre révolutionnaire décédé en 1919 ont déclenché, voilà deux jours, une véritable insurrection dans le sud du pays. Les insurgés ont même contrôlé pendant près de 48 heures San Cristobal, une ville de 80 000 habitants, et les affrontements avec les forces de l'ordre auraient fait entre 50 et 100 morts.
Mais on parle de l'armée zapatiste. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler qui est Zapata? Est-ce que ça veut dire, parce qu'on ne connaissait pas ce mouvement il y a quelques semaines.
Zapata est un héros mexicain, héros de la révolution, mais qui dont se réclame aussi bien le gouvernement que les mouvements agraristes et que, en l'occurrence, cette armée de libération nationale.
Jérôme Bachet, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était, dans l'archive qu'on a entendu avant cette chanson de 1910, c'était il y a 11 ans le déclenchement du soulèvement des Indiens, du Chiapas au Mexique, le début d'une révolte, que vous appelez d'ailleurs une rébellion, hein, dans un livre, la rébellion zapatiste, un mouvement dont vous soulignez l'originalité et la nouveauté, qui se réclame pourtant, je l'ai dit, d'une révolution qui s'était déclenchée au début du XXe siècle, derrière Emiliano Zapata. Alors pour comprendre peut-être ce qu'a été le soulèvement de 94, il faut peut-être rappeler ce qu'était d'abord la première révolution zapatiste en 1910, celle dont les Indiens du Chiapas reprenaient le nom 84 ans plus tard.
Oui, je crois que vous avez raison de faire ce retour en arrière, parce que les zapatistes de 1994 ont un sens de l'histoire extrêmement prononcé, et ils se réclament de l'histoire mexicaine, de manière générale, et en particulier de ce grand héros de la révolution des années 1910, 1920 ou 1919, puisqu'il a été assassiné cette année-là, et qui est donc l'inspirateur, en quelque sorte, les zapatistes de 1994, se considérant comme, d'une certaine manière, la réincarnation de ce soulèvement armé du peuple des paysans en armes des années 1910, au cri de terre et liberté, qui étaient les deux revendications principales du mouvement zapatiste de 1910, et qu'on retrouve donc en 1994, sous une forme différente, évidemment, adaptée au monde d'alors.
Alors la première révolution, quand même, on peut considérer, a été à la fois un succès, un échec. Un succès parce qu'elle portera au pouvoir un peu plus tard un parti qui a d'ailleurs un nom extraordinaire, avec deux mots tout à fait contradictoires, le parti révolutionnaire institutionnel, hein, qui a régné, si on peut dire, pendant 71 ans au Mexique. Et au fond, c'est une espèce de désillusion, parce que ce parti au pouvoir, c'est celui contre lequel vont se dresser les Indiens du Chiapas en 1994. C'est d'abord et avant tout, vous le rappelez, Jérôme Bachet, une révolte indienne dans un pays qui en compte beaucoup.
Oui, le Mexique compte une population indigène extrêmement importante, de l'ordre de 10 à 12 millions de personnes, sur une population totale d'une centaine de millions d'habitants, donc plus de 10% de la population. Mais cette population est concentrée dans un certain nombre d'États, en particulier dans les États qui se trouvent au sud du Mexique, et en particulier le Chiapas, qui est l'État le plus méridional du Mexique, où la population indigène atteint plus d'un tiers de la population et presque la totalité de la population dans certaines zones, et en particulier dans la zone où s'est déclenché le conflit à partir de 1994.
Ce sont des Indiens qui descendent, enfin de lointains descendants des Mayas, hein, vous les citez, les Tseltals, les Torolabales, les Tzotzil, les Tchols, c'est ça?
Ce sont des populations Mayas, en effet.
Et cet État est très pauvre, et pourtant il y a du pétrole, il y a des produits alimentaires, c'est un des, je crois, le plus gros producteur de maïs du Mexique.
De maïs, de café aussi. Ce sont des grands producteurs de café. Les indigènes zapatistes produisent beaucoup de café. Le sous-sol du Chiapas est extrêmement riche et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles le conflit a du mal à trouver une solution.
Parce que
mais effectivement, la population
n'en profite pas.
Il y a une inégalité sociale très forte, comme dans l'ensemble du Mexique, et évidemment, les indigènes font partie des franges de la population la plus pauvre.
Alors, une révolte indienne, mais animée par un homme qui ne l'était pas, et dont on a mis d'ailleurs moins d'un an à découvrir l'identité, hein, malgré le passe-montagne légendaire qu'il porte tout le temps, le sous-commandant Marcos, France Inter, Gérard Zénoni et Frédéric Barrière, le 10 février 1995.
Rafael Sebastián Guillén Vicente, c'est le nom révélé par le président du Mexique, du chef des rebelles zapatistes qui depuis bientôt 2 ans organise la révolte des paysans indiens dans l'état du Chiapas. Et ce serait, Frédéric Barrère, un fils de bonne famille.
Oui, sous le passe-montagne de laine noire se cachait le fils d'une famille aisée, propriétaire d'une chaîne de magasins de meubles. Marcos était devenu un personnage quasi mythique, et pas seulement pour les indiens du Chiapas. Dans les salons de la capitale mexicaine, il fallait parler de Marcos, c'était la mode. Des dizaines de livres ont été écrits sur Marcos, et quelques jours à peine après l'insurrection de janvier 94, on vendait dans les rues de Mexico des t-shirts, des poupées et même des préservatifs à son effigie. Marcos a maintenant un visage. L'armée a ordre de capturer Rafael Sebastián Guillén Vicente. Le risque de confrontation jusqu'ici évité s'est dangereusement accru au Chiapas.
Étonnant ce personnage du sous-commandant Marcos, Jérôme Bachet. Pourquoi d'abord sous-commandant? C'est pas un grade, ça?
C'est un choix voulu, dans la mesure où les autres dirigeants de l'armée zapatiste de libération nationale ont le grade de commandant et sont tous indigènes. Il est le seul non-indigène à participer à la direction de ce mouvement, et il a choisi de conserver le titre de sous-commandant pour marquer sa soumission aux dirigeants indigènes de ce mouvement.
Autre figure emblématique, Jérôme Bachet, de cette rébellion, donc, puisque vous l'appelez comme ça, rébellion zapatiste, c'est un évêque, l'évêque rouge du Chiapas, qui est Samuel Ruiz.
Alors, il faut dire effectivement que...
Il n'est pas indien, lui, donc.
Il n'a pas joué un rôle direct dans le mouvement zapatiste, mais ça fait partie des éléments qui expliquent une situation très particulière au Chiapas, puisque, étant évêque depuis 1960, lui et son équipe, à la tête du diocèse, ont joué un rôle très important dans la prise de conscience des indigènes de leurs conditions. Il a organisé le congrès indigène de 1974, qui a été un moment très important dans cette prise de conscience de l'exploitation, de l'humiliation dont étaient victimes les indigènes. Et ensuite, une série de mouvements sociaux, de revendications paysannes, pour la terre notamment, se sont développés. Et les communautés aussi indigènes se sont organisées, d'une certaine manière, avec un appui très fort, une intervention très forte de l'Église, mais d'une Église très particulière, qui est celle de Samuel Ruiz, qui avait adopté les positions, qu'on pourra dire de manière simplifiée, de la théologie de la libération.
Quand vous dites ce congrès de 74, il faut rappeler qu'il était fait en l'honneur d'un homme qui, 4 siècles avant l'évêque Ruiz, avait déjà défendu les Indiens, et qui était ce dominicain, Bartolomé de Las Casas, hein, au fond, dont Ruiz est un reprend.
Et le
successeur. Quelles sont les revendications des Indiens? Vous disiez au début d'émission qu'au fond, ils reprenaient les mêmes revendications un peu qu'à l'époque de la révolution zapatiste de 1910.
Alors, cette revendication, c'est la revendication de la terre, la réforme agraire, qui était la revendication centrale dans les années 1910, qui avait déjà fait l'objet de luttes acharnées de la part des indigènes, qui déjà avaient trouvé un certain nombre d'organisations, de formes d'organisation, et qui déjà dans les années 70, 80, au début des années 90, étaient en passe de gagner ce combat pour la terre. Donc en quelque sorte, le mouvement zapatiste arrive sur un terrain qui est à la fois celui d'une très grande inégalité, d'un sentiment d'humiliation de la part des indigènes, mais en même temps d'une mobilisation sociale extrêmement forte et d'une certaine manière, à partir de cette revendication pour la terre qui est en passe d'être gagnée, il y a une espèce d'extension du champ de revendication à des questions plus politiques, à des questions de reconnaissance culturelle, de reconnaissance sociale des populations indigènes qui jusque-là étaient marginalisées ou dont on niait d'une certaine manière l'existence.
Mais en quoi consistait cette réforme agraire qui est au programme de toutes les révolutions en Amérique latine, concrètement au Chiapas, au Mexique, à l'époque où justement ils revendiquent la terre?
Le partage des terres qui avaient été concentrées au sein de grandes propriétés qu'on appelle là-bas des fincas, et qui sont des extensions de terres considérables, peut-être moins grandes qu'au Brésil par exemple. Donc c'est assez différent du Brésil dans la mesure où il y avait déjà des paysans qui possédaient de manière collective un certain nombre de terres, mais il y avait quand même face à une grande quantité de paysans sans terre ou avec une quantité de terres extrêmement réduite, des grandes propriétés qui étaient, disons, l'objectif de cette volonté de réforme.
Alors ce programme est donc défendu par ce mouvement zapatiste qui se crée d'ailleurs en 1983. Il s'appelle en réalité le ZLN, l'Armée Zapatiste de Libération Nationale, qui formule, avant de se soulever en 1994, une trentaine d'exigences. J'en cite trois, les plus importantes: la démission du président Salinas du Parti Révolutionnaire Institutionnel, l'annulation d'un article qui prévoyait l'arrêt, je crois, de la réforme agraire, et l'autonomie des Indiens. Un programme donc apparemment entièrement national, purement mexicain, mais aussi international, comme le rappelait il y a 4 ans le sous-commandant Marcos, au micro de Là-bas si j'y suis, de Daniel Mermet.
Fuimos el síntoma de un proceso de resistencia mundial y nacional.
Nous sommes le symptôme d'un mouvement de résistance nationale et internationale.
A una lógica que se presentaba como implacable, la de la globalización.
A une logique qui avait l'air implacable, celle de la globalisation.
Estamos ahorita en la puerta de dejar una forma de hacer política.
Nous sommes au moment de laisser une manière de faire de la politique pour en faire une autre.
Pensamos que el poder.
Nous pensons que le pouvoir.
No está ya en los estados nacionales.
N'est plus dans les états nationaux.
El poder está en los grandes centros financieros.
Le pouvoir est dans les grands centres financiers.
Y finalmente lo que vamos a hacer es cambiar una visión del mundo por otra visión del mundo.
Et ce que nous voulons, ce que nous allons faire, c'est changer une vision du monde contre une autre vision du monde.
Para nosotros la dignidad es correcta. Para nosotros el futuro negado. Para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista en Nahua.
Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar.
C'est Por el Suelo, Manuel Chao, qui a dédié son album Clandestino au sous-commandant Marcos, Jérôme Bachet. Alors on le voit, on l'a entendu, un programme très international. Ça va bien au-delà des simples revendications des Indiens, le mouvement zapatiste et ses revendications.
Il répond à des aspirations locales, il a un projet national et il a aussi une visée internationale. Il faut rappeler que parmi les initiatives des zapatistes, il y a eu l'organisation au cours de l'été 1996 d'une rencontre intercontinentale pour l'humanité et contre le néolibéralisme, à laquelle se sont rendus des milliers de participants venus des cinq continents. Et on peut dire que c'est le premier symptôme, le premier moment d'une reprise, d'une mobilisation internationale qui ensuite prendra la forme de ce qu'il est convenu d'appeler maintenant le mouvement altermondialiste, qui connaîtra à partir de Seattle en 99 l'écho que l'on sait maintenant. Mais 96, dans les montagnes du Chiapas, c'était en quelque sorte le prélude ou l'avant-goût de ces mobilisations altermondialistes.
qu'on va retrouver chez Attac, qu'on va retrouver chez José Bové,
voilà,
qui les soutiennent. Non. Alors, Jérôme Bachet, donc, 96, c'est deux ans après le déclenchement donc de ce soulèvement. En fait, c'est là, c'est peut-être pour ça que vous appelez ça une rébellion. Ça a été très très éphémère. Ça a été une espèce de comment dirais-je. Ça a duré très peu de temps. Ils s'emparent de les apatistes s'emparent de plusieurs villes, dont la plus importante, San Cristobal, je crois, au Chiapas, où vous êtes oui. D'ailleurs, je crois, enseignant.
Hein, exactement. En
mais ça a duré peu de temps parce que tout de suite le gouvernement le réagit d'abord en faisant des concessions. D'une part, il y a d'une part la fermeté, ce qu'on a appelé une guerre de basse intensité, une lutte militaire contre ce mouvement, et en même temps, on lui fait des concessions.
Alors, il faut peut-être revenir d'abord sur le 1er janvier 94, justement. C'est effectivement un soulèvement armé. C'est une guérilla, ou plutôt, disons, une armée indigène paysanne en armes, qui prend d'assaut un certain nombre de villes, qui les prend par surprise dans la nuit du réveillon du 31 décembre au 1er janvier, donc sans combat, et qui, le lendemain matin, le 1er janvier, donc, annonce à l'ensemble du pays et à l'ensemble de la planète que cette armée s'est emparée de quatre villes importantes du Chiapas.
Petite parenthèse, c'est pas pour le réveillon qu'ils font ça, c'est à cause de la signature de l'ALENA.
Tout à fait. Enfin, disons, d'un point de vue militaire, l'effet de surprise pouvait jouer ce jour-là, et effectivement, le fait de pouvoir prendre ces villes sans combattre permet un coup d'éclat qui n'aurait pas été possible un autre jour, mais évidemment, la valeur symbolique de ce jour, c'est l'entrée en vigueur du traité de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis d'Amérique et le Canada, qui symbolise justement un type de politique néolibérale qui est précisément celle contre laquelle les mobilisations zapatistes vont ensuite mettre l'accent.
Mais il se retire tout de suite donc de ces villes. Qu'est-ce qui se passe après ?
Alors, il se retire tout de suite de San Cristobal, notamment avant l'arrivée de l'armée fédérale, qui met un certain temps à arriver quand même, plus de 24 heures. Donc la capacité de réaction des autorités est quand même un peu assez nettement mise en défaut. Le gouverneur de l'État, prévenu par téléphone, ne croit pas à ce qui se passe. Enfin, donc un effet de stupéfaction, de surprise générale, qui permet aux zapatistes de montrer une action à la fois militaire mais pacifique, puisqu'il n'y a aucune dégradation ni violence qui soit commise dans ces villes à l'égard des civils.
Le journal de France Inter du 3 juin, janvier, pardon, parlait de 100 morts quand même.
Oui, alors il se retire de San Cristobal, mais il y a des combats qui ont lieu au moment où l'armée fédérale encercle en quelque sorte, alors que ça n'était pas dans le scénario zapatiste, un certain nombre de bataillons de cette armée, et d'autres combats, donc il y a effectivement plusieurs centaines de morts malgré tout. Mais le scénario change à nouveau, puisque le 12 janvier, le président Carlos Salinas de Gortari décrète un cessez-le-feu que les zapatistes acceptent. Donc la phase militaire d'une guérilla qui s'était préparée pour un soulèvement armé pendant plus de 10 ans n'aura duré que 12 jours.
Alors qu'est-ce qui se passe justement à ce moment-là au Chiapas, dans les zones que contrôlent les zapatistes ?
Alors, les zones dans lesquelles ils se trouvent continuent à être, la situation militaire se fige à partir du moment du cessez-le-feu et on entre dans une phase de négociation. Il y a dès la fin du mois de février au début du mois de mars 94, un dialogue dans la cathédrale, sous les auspices précisément de l'évêque Samuel Ruiz, entre une délégation zapatiste et une délégation gouvernementale.
Et ça va aboutir quand même à des concessions importante. Vous citez plus tard les accords de San Andrés, c'est ça ?
Alors, il y a des épisodes entre ça.
Non, parce qu'en fait, il se passe environ 6 ans de négociations, c'est pas trop bien.
Ce premier dialogue n'aboutit pas parce qu'il y a une situation de crise finale du système de parti-État au Mexique. Le candidat du prix à la présidence est assassiné. Les négociations sont suspendues. En 95, l'armée fédérale, par surprise, engage une action militaire qui vise à capturer ou à tuer l'ensemble des dirigeants zapatistes. Mais cela échoue. C'est à ce moment-là précisément que le président Cedillo dévoile l'identité supposée de Marcos, c'est-à-dire c'est une manière de le réduire.
Pourquoi supposer c'était pas vrai ce qu'on avait découvert ?
Alors c'est sans doute vrai. Le principal intéressé n'a ni démenti ni assumé cette identité. Pour lui, son identité, c'est Marcos, c'est l'identité qu'il possède depuis qu'il est entré dans la selva avec les indigènes de son mouvement. Cet engagement militaire de l'armée fédérale n'aboutit pas. Les zapatistes et ses dirigeants en particulier réussissent à se cacher, à échapper. Et du coup, nouveau revirement,
le Parlement prend position pour un nouveau dialogue, s'engage un nouveau dialogue à San Andrés qui aboutit à la signature des accords de San Andrés justement en février 1996 entre le ZLN et la délégation gouvernementale.
Les zapatistes et le gouvernement qui prévoit quoi ces accords de San Andrés?
Ce sont des accords sur les droits et la culture indigène qui accordent notamment un certain nombre qui accordent l'autonomie dans un cadre municipal aux populations indigènes du Mexique.
Il y a un peu un double jeu quand même du gouvernement, parce qu'on s'aperçoit aussi, on ne sait pas trop bien qui les a commis, qu'il y a des assassinats d'Indiens dans un certain nombre de villages. Vous citez par exemple un massacre à Acteal, je crois, en décembre 97. Donc c'est un peu la carotte et le bâton que pratique le gouvernement.
En quelque sorte, un double jeu en tout cas. Donc, puisque finalement, malgré le fait qu'il ait signé ces accords, le gouvernement, le président de la République, décide de ne pas les mettre en pratique, c'est-à-dire de refuser la réforme constitutionnelle qui aurait traduit juridiquement ces accords. Et donc, le processus de négociation et le cheminement vers un accord de paix devient impossible à partir du moment où ces accords ne peuvent pas être mis en pratique de manière négociée et de manière constitutionnellement reconnue. Donc, à ce moment-là, le gouvernement choisit une autre tactique qui est celle du harcèlement pour essayer de venir à bout du mouvement zapatiste. C'est donc ce qu'on a appelé la guerre de basse intensité, le fait d'armer des groupes paramilitaires, c'est-à-dire en fait des indigènes, des communautés, mais hostiles aux zapatistes, en leur fournissant des armes, et en essayant à travers eux de susciter une politique de terreur qui va amener les populations zapatistes dans une très grande proportion à se déplacer, à quitter leur village et à se réfugier dans des camps de déplacés.
Et en favorisant finalement d'une certaine manière la popularité croissante qu'obtient ce mouvement, son chef, le sous-commandant Marcos, qu'on vient voir d'un peu partout, qu'on vient photographier avec toujours sa cagoule et sa pipe, très populaire, c'était une espèce de Che Guevara mexicain en quelque sorte, le sous-commandant Marcos.
Il a eu, effectivement.
Aux yeux des Européens, en tout cas.
Oui, alors, à mon avis, il y a quand même un certain nombre de différences qu'il faut marquer. Alors, en effet, il est devenu une sorte d'icône qu'on peut voir sur les t-shirts et sur un certain nombre d'objets, comme le Che. Donc, il y a un certain parallélisme.
Et même, disait-on, des préservatifs.
Mais quand même un certain nombre de différences. Le Che appartient à une époque de l'héroïsme assumé, d'un héroïsme révolutionnaire que précisément les zapatistes ne reprennent pas à leur compte. Donc il y a à la fois une admiration évidemment de la part d'un mouvement rebelle à l'égard de la figure du Che, mais en même temps une prise de distance à l'égard de ses positions politiques, de ses stratégies, de la stratégie militaire car quand même le Che est associé à l'idée de guérilla et le zapatisme, c'est précisément une sorte de renoncement progressif à la voie armée et
oui,
à cette option militaire
au fond
de départ.
La révolution, la révolte, mais pas la prise du pouvoir. C'est assez curieux, c'est très original. On y reviendra, mais toujours est-il que très populaire internationalement, et y compris au Mexique, eh bien ce mouvement zapatiste finit sans doute à ruiner le prestige du pouvoir qui tombe avec l'élection en 2001. En fin 2000, d'un nouveau président, Vicente Fox. C'est la première fois depuis 71 ans que le parti au pouvoir, le PRI, perd justement le pouvoir. Et le nouveau président, Fox, souhaite dialoguer avec le mouvement zapatiste, permettant, 3 mois après sa victoire, l'entrée triomphale et du sous-commandant Marcos à Mexico, le 11 mars 2001. France Inter, Bernadette Chamonix.
C'est sans doute l'homme masqué le plus célèbre du monde, après Zorro. Il tient d'ailleurs un peu du héros du cinéma. Le sous-commandant Marcos, le visage toujours caché derrière un passe-montagne, est en train d'achever, avec 24 de ses compagnons, son voyage vers Mexico.
Ben, nous sommes sur place du Zocalo. Marcos est en train de parler. Il est en train de parler depuis une bonne vingtaine de minutes. C'est un Zocalo plein de jeunes, sous le soleil, plein de banderoles. Jamais on a vu ça. C'est absolument impressionnant, le flux, le reflux des gens qui vont, qui viennent. Ce sont des gens qui ne sont pas organisés, il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'organisation syndicale, mais c'est surtout une fête, vraiment une grande fête.
Anda, levanta, anda, te levanta ya, anda en el momento que va a llegar, anda en el momento que va.
Et donc, le 11 mars 2001, ce commandant Marcos entrait à Mexico. Depuis, d'ailleurs, on ne l'a pratiquement jamais revu dans les médias. C'était un peu l'apogée d'un mouvement dont on dit qu'il décline, que qu'il s'est un peu essoufflé. Qu'est-ce qu'il en reste, en fait, de ce mouvement zapatiste, Jérôme Bachet, de ce soulèvement de 94, des communes autonomes? Ça, c'est ce qui est très important, je crois. Et qui avait déjà été créé, d'ailleurs, avant l'arrivée à Mexico.
Oui, alors la marche de 2001 a montré l'écho extraordinaire du mouvement zapatiste, aussi bien au Mexique qu'en dehors de ses frontières. Mais l'objectif principal de cette marche n'a pas pu être atteint, puisque c'était encore une fois l'adoption de cette réforme constitutionnelle sur les droits et la culture indigène. Cette loi n'a pas été votée, donc le processus de paix que souhaitaient les zapatistes et d'autres n'a pas pu être atteint, être mis en place. Donc la situation est toujours bloquée, et résister dans des conditions matérielles extrêmement précaires, dans des conditions politiques hostiles, depuis 11 ans, c'est déjà un bel exploit, pourrait-on dire. On a l'impression, effectivement, avec les zapatistes, qu'ils ont disparu, on n'en parle plus. On en parle beaucoup à certains moments, c'est formidable. Après, on n'en parle plus, et on a l'impression qu'ils ont disparu. Mais en réalité, ils sont toujours là. En 2003, il s'est passé quelque chose d'important dans l'histoire du mouvement zapatiste, c'est la création des caracoles, les escargots, et des conseils de bon gouvernement, et qui sont en fait des structures de coordination au niveau régional des communes autonomes qui existaient déjà. C'est-à-dire que l'idée, c'est que cette autonomie indigène qui n'a pas pu être mise en place constitutionnellement, ils la mettent en pratique directement au sein de leur communauté et au sein de ces organisations dans laquelle ils apprennent à gouverner collectivement. C'est un peuple de paysans qui apprend à gouverner collectivement.
En deux mots, ces communes indigènes, elles existent, ces escargots aussi dont vous parlez, qui sont une espèce de fédération de communes indigènes autonomes, ça existe, mais ça me fait penser un peu au phalanstère de Fourier. Est-ce que, au fond, tout ça n'a pas été une belle utopie et ne restera pas une utopie, Jérôme Bachet?
C'est une utopie qui existe, hein. Ce sont des communautés, des villages indigènes qui forment des jeunes générations, qui réfléchissent à la manière de transformer leur réalité présente et leur futur. C'est une utopie sans doute. Il s'agit de penser à un monde neuf, à un monde différent. On ne sait pas ce que sera ce monde. On ne sait pas quel est le chemin pour y accéder, mais on tente d'y aller, et c'est une utopie que tentent de construire, en effet, les zapatistes.
Et dont vous parlez, Jérôme Bachet, je le rappelle, dans un livre, La rébellion zapatiste, insurrection indienne et résistance planétaire, qui vient de paraître chez Jean Flammarion. Je crois que c'est une réédition. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne, Claire Destacan, Claire Tesser, Amélie Briand, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation demain dans 2000 ans d'histoire avec Philippe Labro, le roi du crime dans l'Amérique.